Bonjour, bonsoir à tous, que vous m'écoutiez de Radio Vacarme ou d'une autre plateforme, bienvenue dans ce nouvel épisode de Concrètement Flou. Je m'appelle Marcel Germaine, j'ai 27 ans et après 7 années à étudier dans diverses écoles d'art et 2 années lâchées comme jeune diplômée dans la jungle artistique parisienne, concrètement, je fais quoi ? Je vous avoue, en tant que jeune artiste, eh bien c'est plutôt flou. Entre solitude et galère, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et d'aller à la rencontre des personnes qui façonnent le monde de l'art d'aujourd'hui et de demain. Après des mois et des mois de silence radio, je reviens enfin à vos oreilles, accompagnée de l'artiste Adèle Vivet. Avec un parcours de designeuse, ensemble nous nous sommes lancés dans un vrai papotage d'atelier où nous avons disséqué son évolution de designeuse à artiste. Nous avons parlé de ses études, de la manière dont elle a développé et enrichi son travail sculptural vers la peinture. Nous avons échangé sur sa vie d'artiste à plein temps, sur sa prochaine résidence artistique à Saint-Malo et la manière dont elle recentre l'intime dans son travail aux côtés de sa sœur Blanche Vivet. C'est un épisode qui part un peu dans tous les sens et qui est très très représentatif des conversations que je peux avoir en atelier. Donc j'espère que tout ça vous plaira. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. Salut Adèle.
Salut Marcel.
Comment ça va ?
Ça va plutôt bien.
Ouais, je suis trop contente de faire ce nouvel épisode avec toi. Ça fait, je ne sais même plus combien de temps, ça fait des mois que j'ai pas enregistré d'épisode. Va falloir que je me remette dans le bain, mais j'avais pas le temps, j'avais plein de projets et maintenant il est temps de remettre un petit peu le podcast en éveil, on va dire. Merci de m'accueillir dans ton atelier. C'est la première fois que je viens, que je le vois. C'est une sorte de garage rempli de plein de choses hyper magiques et de plein d'espaces trop cool que je vois sous mes yeux. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est ton atelier ?
Ok, donc déjà, merci d'être venue parce que c'est quand même à l'autre bout de Pantin, à l'autre bout du monde. C'est entre Pantin, Aubervilliers, dans la zone Indus, à côté du cimetière. Donc c'est caché, c'est très caché. Ça s'appelle Turbo Collectif. Donc c'est un collectif où on est 13 artistes et on se partage un espace de 150 mètres carrés, à peu près un garage, comme tu disais bien.
Ouais. Et, mais alors, c'est un garage qui est cool, qui est lumineux. Il est vraiment... Je trouve qu'il est agréable.
Ah oui, 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 carrément. On ouvre en grand les portes. Il n'y a pas beaucoup de chauffage, comme dans beaucoup d'ateliers d'artistes. Donc on a tous notre petit radiateur d'appoint en hiver. Et en fait, ce qui est très chouette, c'est qu'on peut beaucoup bouger les tables, on peut s'étaler, mais on peut aussi ranger facilement, on peut stocker. Ça, c'est rare, les ateliers où on peut stocker ses pièces. On a tout un espace à l'arrière où on peut mettre notre matériel. Enfin, là, j'ai mon imprimante 3D juste à côté. Enfin, c'est
le beau
bien.
Bébé.
Oui, le nouveau bébé, la Bamboo Studio, elle est trop bien. Et puis, là, aujourd'hui, en plus, c'est cool que tu viennes aujourd'hui parce que je devais faire un accrochage pour prendre en photo mes premières toiles. Et j'ai pu investir les lieux en plus parce qu'il y a des grands murs blancs. Donc ça aussi, c'est une chance. Et voilà, je viens tout juste d'arriver avec ma sœur parce qu'on est toutes les deux artistes et on travaille ensemble. Donc avant j'étais à la Villette et disons que la place était plus réduite donc là ouais. c'est deux salles, deux ambiances, on va dire ça comme ça.
Non mais c'est trop cool, c'est pas que c'est rare que j'ai l'occasion de me déplacer dans les autres ateliers d'artistes, mais c'est vrai que à chaque fois, malheureusement, plus le temps passe et plus la ville de Paris recule les ateliers.
Tellement.
On nous fout en dehors de la ville et à un moment donné, ça prend tellement de temps de se déplacer dans les ateliers de chacun. Enfin, je pense aussi à toutes ces personnes qui sont... Moi, je suis à Montreuil, mais je suis à Croix-de-Chavaux. Donc, c'est sur la ligne 9, c'est assez facile d'accès. Mais je pense à tous ceux qui sont vers Romainville, ceux qui sont pareils vers Pantin, un peu plus loin aussi. Et c'est... Ouh!
Ouais.
Ouais, c'est compliqué. Hein.
En fait, c'est marrant parce que du coup, on voit que la vie artistique, personnellement, ma vie quotidienne, du coup, évolue aussi énormément dans le nord-est parisien. Moi, j'habite à Aubervilliers, donc en fait, j'ai la chance de pouvoir venir à pied au studio. Et ça, c'est trop bien. Après, c'est vrai que ça coupe aussi de la vie culturelle d'une certaine manière. Donc là où on a envie d'aller voir tous les shows, toutes les expos, dans le Marais, dans le 6e, etc., c'est...
J'y vais jamais.
Non, mais on dit tous, en fait, on dit tous qu'on y va, mais ouais, t'étais au vernissage, machin.
Non, je travaille.
C'est vrai qu'on travaille. En fait, c'est vrai qu'on travaille tout le temps. Ouais. Et après, voilà, bah, c'est cette chance d'être dans une zone où ça bouge. Enfin, toi, tu dis que t'es à Croix-de-Chavaux, Montreuil, Pantin, Montreuil, Aubervilliers, Saint-Denis. Enfin, c'est quand même des endroits où il y a beaucoup d'ateliers.
Ouais.
Donc, de circuler de l'un à l'autre, c'est tout à fait possible, quoi.
Il se passe beaucoup de choses dans ces endroits. Mais
ouais.
Je suis tellement énervée et saoulée de voir que plus ça va et plus Paris nous fait reculer de plus en plus loin.
Complètement.
Et c'est très énervant.
Ouais.
Voilà. C'était ma gueulante du jour. Je fais une gueulante tous les jours et celle-ci, c'était celle du jour. On s'est rencontrés pour la première fois, c'était, je pense... à l'automne dernier, peut-être fin d'été, quelque chose comme ça.
C'est ça.
C'était pour une exposition que nous avons fait en commun grâce à Virage, qui est une super association, et ce n'est pas la première fois que j'en parle, mais qui essaye de mettre en avant la jeune création et de créer des espaces de rencontre entre des artistes qui sont peut-être un peu plus... dans le game, on va dire ça comme ça, et des jeunes artistes
confirmés entre guillemets, mais
à chaque fois que je parle de ce projet avec les filles de Virage, je suis toujours là à dire oui, les vrais artistes et les faux,
c'est ça, les adultes et les enfants, quoi.
C'est ça. Genre... alors que pas du tout, hein, c'est pas ça. Mais du coup, on s'est rencontrés comme ça. Moi, j'étais du coup en collaboration avec
en mentorat,
on va dire, avec Neyla Romessa, qui est une invitée aussi du podcast que j'ai eu, qui a inauguré cette nouvelle saison. Et toi, tu étais avec ?
Avec Kai Yoda, du duo Ita Yoda. Le principe de Virage aussi, c'était... Ah voilà, je sais. De proposer du mentorat, mais des tandems. C'est comme ça qu'elle le définissait.
Tandem, c'est le mot que je cherchais.
Tandems artistiques. Et en fait, un tandem, c'est autant une manière d'accompagner donc un artiste émergent, de le ou la conseiller sur sa pratique, ou alors de collaborer. Donc, ce qui s'est passé avec Kai, c'est que le tandem et le mentorat s'est transformé en collaboration. Et en fait, à la fin de Virage, donc la restitution du projet exposition à la galerie Conformentable, on a proposé une installation à quatre mains. Donc ça a été un peu... En fait, c'est marrant parce que pour moi, ça a vraiment été une espèce de nouveau point de départ dans ma pratique. Et c'est là où, vraiment, presque tous les jours, genre, je repense à Virage et je me dis, mais quel beau nom quand même. Parce que ça a vraiment... Enfin, il y a vraiment eu un virage dans ma vie artistique, on pourrait dire, où je me considérais plutôt comme designer avant de rencontrer les filles.
Parce qu'on n'a pas fait ta... J'ai pas du
pas
tout
fait
ta
présentation. Ouais.
Voilà, bien sûr, il y aura l'intro au début de l'épisode, mais techniquement, quand même, j'aime bien préciser que tu es artiste designeuse, que tu fais plein de choses, mais entre autres, je dirais, de la sculpture, de la 3D, du dessin. Tu fais aussi des bijoux, j'ai un petit peu vu.
Ouais.
Et maintenant, de la peinture aussi.
Ouais, c'est plein de médiums différents. C'est pour ça que j'ai souvent du mal à décrire ma pratique. J'ai toujours encore du mal à en parler. Mais pour revenir à Virage, ce qui s'est passé, c'est que pour la première fois, j'ai plus eu peur de dire « je suis artiste ». Et que, en fait, avant, j'étais designer-artiste et que maintenant, je suis artiste. Pourquoi pas designer ? Et en fait, ça change absolument tout. Et en fait, ça me permet aussi déjà d'avoir une certaine légitimité parce qu'il y a eu une expo qui a été encadrée par des curatrices. Pour moi, c'était aussi... ça s'était déjà passé au préalable. Il y avait déjà eu des expos, il y avait eu beaucoup de salons parce que dans le milieu du design, on fait plutôt des salons plus que des expos. Il y avait eu des curateurs, des curatrices qui avaient écrit, etc. Là, en fait, c'est un projet où on a été accompagnés de A à Z. Donc, les filles de Virage... Elles ont beaucoup questionné aussi le procédé. Elles venaient voir, elles faisaient des checks, elles voulaient savoir comment ça se passait, comment on travaillait. Et en fait, d'être accompagnée ainsi, ça permet aussi de comprendre ce qu'on fait et ensuite d'avoir un regard rétrospectif sur son travail. Donc c'était vraiment génial. Et maintenant, j'y repense beaucoup parce que je me rends compte que c'est un peu des mécanismes un peu comme ceux d'une école d'art, en fait,
Mais
que j'ai un peu le sentiment de réadopter dans mon travail.
Justement, c'était l'une de mes questions que j'avais très envie de te poser. C'était comment, en fait, à un moment donné, tu avais fait ce lien. J'ai l'impression que tu as fait plus des études de design.
Ouais.
Et du coup, je me suis dit, mais à quel moment, en fait, tu te dis, mais tiens, c'est pas designeuse que je veux être, mais c'est artiste, tu vois.
Ouais. Bah, peut-être que je pourrais résumer aussi mon parcours.
Mais totalement. Bah, vas-y.
Parce que comme toi, Marcel, des études longues.
T'en as fait
moi,
combien?
j'ai fait 6 ans d'études.
Ah, oh, je te dépasse
Ouais,
d'une
je sais,
année.
t'en as fait 7. Ouais, bah ouais, non, mais 6 ans, 7 ans, enfin, c'est infini, quoi.
C'est long, on aurait pu être chirurgienne peut-être.
On aurait pu, bah, en fait.
Vétérinaire de sûr.
Bah, carrément.
Vétérinaire de sûr.
Et on serait super bien payé, ce serait
Ouais, quelle
incroyable.
vie. Ah
Voilà.
là 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 là.
Mais bah ouais, là c'est. En fait, pour revenir aussi à ton projet de 100%, quand tu parles de ton regard rétrospectif sur tes études.
Alors, attendez, parce qu'elle fait référence
Ah bah
à
oui.
100% l'expo
Ouais.
qui se passe actuellement à la Villette, où j'expose une installation sonore slash un peu sculpturale, où je fais une sorte de rétrospective sur mes 7 années d'études, où je montre beaucoup d'archives, d'écrits, des conversations, des échanges, où voilà, je me pose des questions sur pourquoi est-ce que je veux être artiste, pourquoi faire ce métier, etc. Et c'est vraiment ouais, une ode, une sorte d'hommage à toutes ces années étudiantes pleines de doutes et de questionnements. Voilà.
Bah ouais, bah c'est un très bon résumé. Je pense que
Je l'ai bien
tu
pitché
l'as
là
bien
ces derniers
pitché.
jours.
Ouais, je pense que du coup, là, ça y est, y a un petit mode automatique qui se met en
Comment as-tu su?
route. Ouais, bah je pense que mes études, du coup, je pourrais aussi les définir par cycle. Assez facile aussi parce que en vrai, j'ai fait 3 écoles différentes.
Tu es originaire d'où à la base?
Je suis parisienne. Je suis née
Ah,
en région parisienne, plus
tu
que
fais partie de
parisienne.
ceux-là.
Je fais partie de ceux-là. Je fais partie de ceux-là, mais je suis partie après. Parce
Ok.
que donc j'ai commencé à Boulle, j'ai fait un BTS design d'objets, donc
Super école.
super école. Ouais, je vais le faire comme ça. Donc j'ai en fait à Boulle, j'ai appris à faire de l'image plus que de l'objet. J'ai commencé, enfin tu rentres en BTS, t'as 18 ans littéralement. Donc c'est quand même un moment, enfin t'es très jeune, t'as besoin de connaître beaucoup de choses et disons que t'as un apport culturel. Tout ce que tu prends, tu le manges, tu l'engranges. Et donc pour moi, j'ai le sentiment que ça a été vraiment ça ces 2 premières années. Sachant qu'on n'avait pas des ateliers très grands. Donc en fait, à Boulle, tu as ébénisterie d'un côté, enfin les métiers d'art d'un côté, les arts appliqués de l'autre. Et il y a une espèce de dissociation très forte entre ces deux champs. Donc on a surtout appris à faire de la 3D, de l'image, à parler d'un objet, de sa fonction. Donc très bonne base.
Et à cette époque-là, tu avais envie d'être designeuse?
Ah ouais,
Oui,
ah
voilà,
mais
toi, c'était
ah ouais,
ton goal, quoi.
moi mon goal, mais je me souviens quand j'étais petite, j'avais envie d'être architecte, je dessinais des objets, j'avais envie de faire du vêtement, j'avais envie de faire du graphisme, enfin
La création pure, mais presque
ouais,
artisanale.
en fait la création appliquée, c'est quelque chose qui était évident pour moi. Enfin, c'est vraiment un truc que j'ai pas remis en question. Et quand j'étais petite, je me disais pas je vais être artiste. Non, c'était je vais être styliste, je vais être architecte, quoi.
Ok.
Donc, non, c'est.
J'ai eu ma période styliste aussi
Ouais,
pendant
bah, je
très
pense que.
longtemps.
Est-ce que toi aussi, tu avais des espèces de carnets
Ah bien sûr.
avec les petites dames
Mais bien sûr
habillées,
qu'ils
là?
étaient
Ça,
nus, il
c'était.
fallait les
Ouais,
habiller.
c'est ça. Ah,
Ma
bah ouais.
passion, je les
Bah oui.
collectionnais.
Mais
Je
oui.
les collectionnais.
C'était trop bien. On se les échangeait et tout
Mais
parce qu'on
bien
n'avait pas
sûr.
les mêmes. Donc, non, ça a été. C'était encore mieux que Diddle, quoi. Enfin, toute une
Alors,
chose.
Diddle était incroyable
Diddle
aussi,
était.
on va pas se
Diddle était
mentir.
incroyable.
Mais ces carnets-là,
Bah ouais.
oh, je passais mon temps à demander à mes parents de m'en acheter et ça coûtait cher en plus. Donc j'en avais pas non plus énormément, mais j'étais bien
Ouais.
contente d'en avoir un ou deux.
Mais oui. Non, c'était. Bah ouais. Enfin, c'est. Disons que c'était un peu mon entrée dans les arts appliqués, du coup. Je réitère. Et puis, en fait, un BTS, pour rappeler aussi le fonctionnement, parce que maintenant ça s'appelle un DNMAD.
Ça a changé?
Ouais, ça a changé. Maintenant, c'est en 3 ans. C'est un niveau licence. Alors qu'en fait, avant, bah, un BTS, c'est hyper bâtard comme format parce que ça te donne 2 ans. Tu peux pas rentrer en master dans d'autres écoles. Tu es obligé de faire une année supplémentaire. Tu dois passer une licence, etc. Donc, en fait, ils ont rééquilibré ça pour être sur un bachelor européen. Et ce qui s'est passé, enfin, ce qui se passait à l'époque, c'est que le BTS était considéré comme une prépa. Donc, tu rentrais en BTS à Boulle, à Olivier de Serres, à Estienne, etc. En fait, tu charbonnais pendant 2 ans ton portfolio pour pouvoir ensuite intégrer les Arts Déco, l'ENSI, Eindhoven, la Rietveld, les CAL, tous les grands noms,
d'accord,
les grandes écoles publiques.
Ok, donc c'était comme une prépa. Ouais, en tout cas,
franchement,
perçu comme une prépa.
Notre classe a considéré... Enfin, on était une super classe et notre promo a vraiment... Enfin, qui était très ambitieuse, ça c'était super, qui a considéré le BTS comme une prépa. Donc ça a été 2 ans d'image. C'est pour ça que je dis que c'est de l'image, parce que en fait, on a eu beaucoup de cours de 3D, de vue, de mise en page, de comprendre ce qu'est un portfolio imprimé, etc.
Une sorte de remise à niveau totale, quoi.
Ouais, complètement. Donc après ces 2 ans, j'ai été acceptée à l'ESSAD de Saint-Étienne, qui sont des beaux-arts. Et pour continuer, moi, dans mon cursus design, parce que vraiment, j'avais l'impression d'être, je sais pas, genre un bœuf, de toujours avoir mon objectif en tête, on va dire. Donc j'ai continué à Saint-Étienne, option design.
Voilà, c'était ça que je voulais te demander. Qui t'a perturbé.
Toujours le bœuf, c'est ça.
Mais oui, ce que j'étais en train de me dire, du coup, à Saint-Étienne, ils ont design, art.
Ouais.
Il n'y a pas design graphique ?
Alors, en fait, il y a art et design. Dans art, c'est art... je ne sais pas si ça a changé depuis, mais c'est vraiment art plastique.
Okay.
Et dans la section design, tu peux avoir des options, objets, scénographie, espace et graphisme numérique. Donc moi, j'ai choisi objet. Et j'ai continué dans cette vibe-là. Ce qui est super à Saint-Étienne, c'est que... en fait, c'est l'opposé de Boulle. En fait, il y a de la place. Tu arrives dans une ville post-industrielle où tu as une école qui est énorme. C'est une ancienne manufacture d'armes qui a été réhabilitée en école. Il y a la cité du design qui est là. Enfin, tu as la biennale tous les 2 ans. Tu as des festivals de techno genre tous les ans qui sont incroyables. Enfin, vraiment, c'est un endroit qui est riche et qui est vide à la fois. Enfin, t'as, la ville, c'est pareil. T'as vraiment plein d'espaces vacants. C'est une ville qui est très endettée, qui a pas beaucoup d'argent, qui essaie de faire comme elle peut pour promouvoir la culture, etc. Donc ça, c'est un peu le dark side de Saint-Étienne. Mais en fait, quand t'es étudiante à 20 ans, que t'arrives là-bas et que tu te rends compte que tu peux utiliser une boutique en plein milieu de la ville pour exposer ton travail, c'est juste incroyable.
Ouais. Tu t'es sentie libérée presque
Mais
par rapport à Paris où t'es triquée, quoi.
C'était la première fois que je quittais Paris aussi. Donc il y avait vraiment ce truc, enfin, j'ai grandi dans un appartement dans la même chambre que ma sœur, et là je me suis retrouvée dans un appartement tellement pas cher avec une coloc, on faisait tout le temps la fête, en fait il y a vraiment ce truc de tu t'ouvres, tu prends de la place autant socialement que spatialement, et spatialement aussi vis-à-vis de ton travail. Donc,
et psychologiquement aussi,
et psychologiquement. Ouais. Donc ça a été une espèce de période d'extase, surtout la première année où en plus, pareil, on s'est trouvé un groupe assez prolixe, et il y avait une belle émulsion où on faisait beaucoup de projets en groupe, on s'accompagnait les uns les autres. Et dans des beaux-arts, je pense que c'est essentiel de trouver des groupes comme ça, parce que comme on est beaucoup plus livré à nous-mêmes, on voit moins les profs, donc en fait, d'avoir ça, c'est hyper important.
C'est vrai que la différence entre le BTS et l'enseignement dans un BTS et l'enseignement dans une école de beaux-arts, ça devait être genre complètement différent.
Ah, c'était hyper, c'était opposé. Et en BTS, on nous prenait par la main. En plus, on avait des profs qui étaient très maternants et très bons. Enfin, vraiment, ça a été... je suis toujours en contact avec eux, enfin, surtout une. Et c'était... très maternant, encadré, généreux, là où à Saint-Étienne, il fallait que tu prennes ta place. Enfin, encore une fois, c'est une question de place. Et il fallait que tu ailles toi-même voir certains profs pour pouvoir interagir avec eux, pas les séduire, mais disons les amener vers ta pratique. Là où en BTS, on venait vers ta pratique. C'est assez différent. Donc ça a été le deuxième passage en école. Je me lasse facilement des choses.
Ah.
Ouais.
Ok.
Donc,
tu t'es dit basta Saint-Étienne.
En fait, la première année, je suis arrivée au meilleur moment où, en plus, c'était la biennale. Donc, il se passait un milliard de trucs tout le temps. Tous les projets étaient des partenariats. On avait plein d'argent pour pouvoir produire. Enfin, on a été payés On était étudiantes et on a fait des projets qui ont été payés par la Cité du Design. Enfin, c'est quand même dingue de se dire que tu es là, tu arrives, tu es en bachelor et en fait, tu as la chance de pouvoir avoir des partenariats où ça marche, quoi. Donc non, c'était trop bien. La deuxième année, bah, en fait, on a découvert le vrai visage de Saint-Étienne aussi, avec des hivers très froids, très, très froids. Et puis, bah, une volonté de bouger. Enfin, après, c'est assez personnel aussi, mais c'est vrai que mon copain de l'époque, que j'avais rencontré à Boulle, était en bachelor à Eindhoven. Donc, on était en relation à distance. Et Saint-Étienne-Eindhoven, c'est quand même assez galère. Il faut prendre 15 bus. Enfin, c'est galère. C'est très long.
Ouais, j'imagine. Ça doit être un peu loin.
Ouais, ouais, c'était un peu loin. Et puis à Eindhoven, bah, c'était quand même mon top one des écoles. Enfin, en fait, je pensais très, très école avant. Maintenant, on pourra en parler juste après, mais je pense plus du tout comme ça. Enfin, disons que le côté, pas arriviste, mais l'ambition au travers d'une école a beaucoup changé.
Ouais.
Mais à l'époque, j'étais obsédée par l'idée de faire des écoles prestigieuses.
Mais ça, c'est parce que, enfin, oh, c'est horrible. Après, on va dire que je tape toujours sur vous, mais c'est pas. Je suis désolée. Mais j'allais dire, ça, c'est Paris.
Bah ouais.
C'est parce que à Paris, j'ai l'impression qu'il y a quand même cet enclin énorme pour bah voilà, si tu ne fais pas une bonne école, si elle n'est pas prestigieuse,
absolument,
tu n'arriveras pas à faire quelque chose. Si tu ne mets pas 7000 euros dans ton année à payer dans une école privée, tu n'arriveras à rien.
Ouais.
Ce qui est entièrement faux,
ouais.
Mesdames et messieurs.
Mais oui, c'est complètement faux. Enfin, c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, on s'en rend compte 3-4 ans après les études, quand on se retrouve à travailler et à côtoyer des personnes qui sont extrêmement douées et qui se sont créées leur chemin très différemment. Donc, il y a cette obsession qui transparaît quand tu as 18-20 ans, que... Oui, ben, je pense que tu as très bien dit la chose, quoi. Je vais
ouais, pas... Mais c'est assez marrant parce que j'ai une cousine, je ne suis pas du tout proche d'elle, pas du tout, drama familial, tout ça.
Okay.
Mais je me souviens d'elle, je devais être à la fin du lycée, vers la fin du lycée, milieu du lycée, et qui me disait, elle devait me demander, je pense, un petit peu ce que je voulais faire plus tard. Et je pense que j'avais dû lui dire que je rêvais de faire les Gobelins ou des choses comme ça. Et elle m'avait dit, Marion, bon... Je donne mon blase perso, mais voilà. Marion, ne fais surtout pas d'école privée. Les gens qui font des écoles privées, ils payent pour qu'on leur donne leur diplôme, mais ça ne prouve pas qu'ils ont du talent ou qu'ils sachent bien faire les choses ou qu'ils soient compétents. C'est juste l'argent qui a acheté ça. Donc, va faire les écoles publiques. Et là, tu dois prouver à toi-même et à tout le monde ce que tu sais faire. Et c'est gratuit.
Ouais.
Ou en tout cas, moins cher, quoi.
Ouais. Bah ça, je te suis carrément sur les
meilleurs conseils.
Ouais, bah sur les écoles publiques. En fait, c'est juste qu'en France, on a la chance d'avoir les deux. Donc bon, bah si t'as pas forcément envie de te mettre la pression, en fait c'est plus ça. Il y a des gens qui ne veulent pas se mettre la pression dans des concours et qui, en plus de ça, déterminisme social oblige, ont les moyens de pouvoir entrer dans des écoles. Donc il y a un tapis rouge qui leur est donné et leur santé mentale et leur stress est maintenu, on va dire. Enfin, maintenu.
Mais je trouve que, tu vois, le souci dans ce genre de fonctionnement, c'est que pour moi, même si tu es hyper talentueux et que tu as charbonné, mais que tu sors d'une école privée, j'ai l'impression que malheureusement, tu as le côté aussi... C'est peut-être hyper positif pour certaines... enseignes, enfin je ne sais pas, mais c'est peut-être parfois hyper positif de sortir de ces écoles-là, mais à un autre moment tu te dis, bah ouais, mais même si elle est talentueuse, elle sort de cette école, donc elle a payé pour, et j'ai l'impression que ça vient au-dessus du talent et du travail que la personne aura effectué, alors que la question ne se pose même pas quand tu fais du public.
Bah non, après je dirais aussi que les écoles privées et les écoles publiques, elles jouent pas sur le même terrain, et donc en fait le public... En tout cas, je vais plus parler des écoles de design parce que je connais mieux, on va dire. Mais les écoles publiques sont plus dans de la DA. Et donc, elles créent des personnalités et des personnes qui seront aptes, on va dire, à déployer un univers qui leur est propre et en fait à l'appliquer soit en étant auto-entrepreneur, en créant leur entreprise, etc., soit en étant directeur artistique. Tandis que les écoles privées, elles sont déjà en relation avec des entreprises. Enfin, il y a un côté business qui est hyper fort.
Ouais.
Et donc, les diplômés qui sortent des écoles privées, en design. Ils vont plus dans des cabinets d'architectes, d'architecture d'intérieur, de décorateurs. Et en fait, c'est pas du tout le même réseau d'entreprises. Donc, ouais, il y a un côté, bah, ok, t'as investi 8000 balles chaque année. T'as peut-être 20 chances en 100, enfin 20% de chances en plus de trouver du taf en vrai en sortant. Parce que quand
ce qui n'est pas négligeable. Hein, parce
ce qui n'est pas négligeable, ce qui vrai, est clairement c'est... pas négligeable. Ah ouais. Et en plus, bah, là, je le vois parce que j'enseigne dans une école privée, mmh. à Lisa, et ce n'est pas du tout les mêmes projets que ce qu'on faisait à Boulle. Donc, tu sens qu'il bah, y a une espèce d'ancrage professionnel, professionnalisant, et que c'est le nerf de guerre de la pédagogie de ces écoles. Mmh. Et qu'ils sont hyper... ils sont très bons dans ça. Après, bah, voilà, c'est le côté où on va se questionner sur un aspect sociétal, de l'art, du design, etc. Bah, c'est moins leur...
Mais en même temps, si c'est ce dont certains étudiants souhaitent et ont envie d'avoir comme parcours, je comprends qu'ils fassent tout pour essayer de rentrer dans ces écoles aussi. Mmh. Et qu'ils fassent des prêts étudiants, parce que forcément, si c'est toi le rêve ou le souhait de carrière que tu as envie d'avoir, je comprends aussi envie d'aller dans ces écoles privées. Ouais. Parce que ça donne envie, forcément.
C'est ça.
Et si tu fais au cas où un prêt étudiant, ou tu sais que tu as quand même plus de chances de pouvoir le rembourser à un moment donné. Ce qui est... Enfin, moi, demain, si quelqu'un vient me voir et me dit « Je vais faire un prêt étudiant pour aller faire les Beaux-Arts », je lui dirais non.
Ouais.
Non, non.
Et là où c'est étonnant aussi, c'est que, bon, en France, tu ne payes pas pour rentrer dans les Beaux-Arts. Enfin, t'as des frais de scolarité qui ne sont pas négligeables pour des personnes qui sont précaires. Après, la différence pour les écoles d'art, elle se fait plus quand tu décides de partir à l'étranger.
Ouais.
Parce que les écoles sont payantes à l'étranger. Donc, bon, exemple numéro un, c'est l'Angleterre. Quand tu prends le Royal College of Art ou la Central Saint Martin, enfin,
Ah, mais laisse tomber. Voilà. Si ça avait été gratuit.
École de commerce.
Ah, mais si ça avait été gratuit, ce genre d'école, mais ça aurait été mon rêve d'y aller.
Bah ouais.
J'aurais tout fait pour essayer de faire quelques années là-bas. Mmh. Vraiment.
Oh. Et puis après, t'as un peu l'entre-deux, la Suisse et les Pays-Bas. Avec l'ECAL, la HED, Genève, et puis bah, la Design Academy, la Rietveld, qui sont plus dans les, on va dire, 2000 euros l'année. Après, tu payes tes matériaux, etc. Donc, en fait, tu dépenses toujours plus parce que c'est des études qui sont coûteuses. Parce que même si une école est gratuite, on dépense beaucoup en matériaux.
Oh oui.
Oh oui.
Ouais, ça coûte très cher.
Mais oui, peut-être pour revenir du coup à ce côté carriériste des écoles que j'avais. Bah, mon objectif, c'était de rentrer à Eindhoven. Parce que...
Tu peux nous resituer où est cette école ?
Oui, tout à fait. Eindhoven, donc c'est la Design Academy of Eindhoven, qui est au sud des Pays-Bas.
Okay.
Petit fun fact historique, parce que j'adore l'histoire. Eindhoven, c'est aussi une ville post-industrielle qui a été... On va dire il y a eu un boom dans les années 40-50 avec Philips. Donc Philips, c'est les appareils électroménagers, téléphones, etc. Donc il y a eu des dizaines et des dizaines de compagnies et d'usines qui ont été construites dans la ville. Donc c'était une ville industrielle. Et puis délocalisation oblige, dans les années 80-90, bah, la ville s'est vidée. Et en fait, contrairement à la France, les Pays-Bas ont plus d'argent que la France et plus d'argent à mettre dans la culture et dans le développement du design, qui est un peu une culture néolibérale, on va dire. Mmh. Et donc, ils ont beaucoup investi dans la rénovation des entreprises, des usines vacantes, pour les transformer en studios de design, etc. Donc, la Design Academy, elle a un peu fleuri. D'abord, c'était une école de design industriel pour Philips. Et en fait, au fur et à mesure... Elle est devenue une école de design et d'art, enfin un peu entre les deux.
Et très réputée.
Très réputée, ouais. Et en fait, très réputée parce que les profs qui ont aussi rendu l'école connue, qui ont été là pendant les années 90, c'était des membres du Drawer Design, qui est un mouvement néerlandais de design qui est un peu la suite. Je suis désolée, c'est vraiment du drop là d'infos.
Mais vas-y, moi, je m'y connais pas tant que ça en design. Ouais. Hein.
Après le postmodernisme, donc Ettore Sottsass et compagnie, dans les années 90 aux Pays-Bas, il y a ce qu'on appelle, ce que je disais, le drawer design qui apparaît, qui est un mouvement qui questionne énormément la fonction et en fait le rapport entre l'objet d'art et sa fonction. Donc, comment on crée un objet ? Est-ce qu'on a toujours besoin de créer de la série, sachant que le modernisme, la modernité, on est passé par là, on a beaucoup d'objets prouvés, Corbusier, etc. Et qu'en fait, maintenant, faire des objets, il y a un postulat politique ou théorique qui doit être derrière. Donc, ces années-là, elles ont vraiment amené cette manière de penser qui est devenue la pensée par excellence belge et néerlandaise du design et qui a eu aussi du coup une influence énorme sur les arts. Donc c'est un design qui est très intellectuel d'une certaine manière, où tout est justifié, justifiable. On s'interroge moins sur la fonction mais plus sur pointer des choses dans la société. Je pense que le meilleur exemple, c'est d'aller voir le Graduation Show qui est organisé tous les ans par la Design Academy, qui expose tous les projets de diplôme et qui montre en fait toutes ces démarches artistico-designer. Mm-hmm. C'est vraiment génial.
Et du coup, est-ce que c'est là qu'à un moment donné, tu t'es dit « je ne suis pas forcément d'accord avec ça et que je vais te citer « tu es intimement convaincu de la valeur du beau ».
Merci, c'est bien, t'as tout lu, trop bien.
J'ai un petit peu potassé.
Ouais.
Et ça m'a assez interpellée ce truc-là parce que moi je fais partie de ces personnes qui trouvent que c'est très important d'avoir un concept et des choses à dire derrière son travail. Mm. Parce que pour moi c'est ce qui fait une œuvre d'art. Mm. Le fait, tu vois là, j'ai une tasse dans mes mains. Si je la pose sur un socle et que je décide que c'est une œuvre d'art, ça sera une œuvre d'art parce que je serai capable de broder pendant 45 minutes sur le fait que j'ai décidé que ça allait être une œuvre d'art.
Ouais.
Pour moi, voilà, c'est ça la définition d'une œuvre d'art. Mais du coup, il y a quand même une scission assez forte dans le milieu de l'art où il y a des gens qui créent pour faire que du beau. Et c'est notamment l'art là qui est beaucoup vendu en galerie et qui est représenté, dans la culture populaire aussi. Et de l'autre côté, il y a ceux qui ont un concept, des choses à dire, ou un art qui est beaucoup plus politique et qui aurait tendance à être un peu moins regardé, moins vu, moins vendable, des choses comme ça. Mm-hmm. Du coup, ça m'interpelle que toi, tu sois une défendeuse...
Du beau, de la beauté.
Ouais.
En fait, c'est marrant parce que ça a beaucoup changé ces derniers mois.
Parce que t'es devenue artiste.
Ça doit être ça. L'ouverture du flot des émotions, la noirceur.
Tout à coup, la designeuse qui s'enlève.
On enlève les voiles, ça fait du bien. Après, j'aime bien toujours faire du beau.
Et il n'y a pas de mal à faire du beau. Au contraire, je ne dis pas que ma tasse posée sur mon socle, elle n'est pas belle.
Ah non, elle n'est pas très belle, mais bon.
Non.
Mais ce qui est à l'intérieur est très bon. Donc...
Exactement. Mais je veux dire, c'est bien de faire du beau. Et après, le beau, c'est complètement subjectif, bien sûr. Moi, je trouve beau des choses parfois qui paraissent mais ignobles pour d'autres. Et voilà, mais c'est assez marrant en tout cas cette manière-là. Et en plus, c'est beaucoup repris dans les choses qui sont écrites à propos de toi sur Internet.
Tout à fait. je dirais qu'il y a le beau et puis il y a aussi longtemps eu mon obsession pour les canons de beauté. Et donc du coup, je pense qu'on peut aussi parler du canon de beauté architecturale parce que ça a été très présent dans mes projets. Encore aujourd'hui, on retrouve une forme d'architecture. En fait, le point de départ à tout ça, c'est que j'ai grandi dans une famille d'historiens et d'historiens de l'art. Et donc, très jeune, j'ai eu énormément de chance de me voir inculquer un savoir, très théorique sur l'histoire des arts et de l'architecture. Et en fait, d'intégrer ça dans ma pratique et de me dire, waouh, mais en fait, mais reprendre du néoclassicisme de la fin du 18e et de jouer avec et de se questionner sur qu'est-ce que sont les nouveaux canons de beauté architecturaux ou pas et comment les intégrer à l'architecture. Enfin, en fait, ça m'obsède, quoi. Et ça m'obsède. Parce que c'est le savoir et qu'en fait c'est aussi, enfin c'est un peu le langage de l'amour de notre famille. C'est on parle de connaissances et en fait on parle de connaissances plus que l'on parle de nous-mêmes. Donc c'est peut-être aussi pour ça que j'y attache énormément d'importance.
Ouais.
Et en fait au fur et à mesure, par quoi commencer? Je me perds dans mes propres pensées.
En même temps, je t'ai drop un truc là.
Ouais, c'est ça. Je dirais que il y a la beauté architecturale d'un côté. Donc ça, c'est ce que j'ai exploré à Eindhoven dans mon projet de diplôme aussi. Et puis en fait, c'est une beauté très froide parce que on parle des choses et on parle pas de soi-même. Donc
c'est ça, où est la sensibilité?
Où est la sensibilité? Et, ouais. Et en fait je me dis, ah oui, mais c'est ça le beau. Enfin, en fait le beau, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on regarde avec nos yeux, et c'est la manière dont l'histoire retranscrit ce beau et l'inscrit dans nos cultures. Donc en fait, enfin, pour moi, mon projet de diplôme que j'ai appelé Everyday Ornament, donc c'était une série de vases, de tapis, mais bon, on a parlé de la tasse tout à l'heure, c'était pas vraiment des vases, c'était pas vraiment des tapis, c'était pas vraiment des tabourets, c'était des espèces d'arches qui accueillaient en fait des éléments en céramique gravés et qui reprenaient l'histoire de l'architecture de l'Antiquité à aujourd'hui. Et c'était une espèce d'hommage à tout ça. En fait, c'est un hommage à ma famille, un hommage à l'histoire, un hommage au savoir encyclopédique qui m'a toujours habité, que j'utilise toujours dans ma pratique. Et en fait, au fur et à mesure, et surtout après la sortie d'école, je me suis rendu compte que ça devenait un petit peu sec comme manière de parler de l'art. Enfin, en fait, parler de l'art, de produire du visuel, de la beauté, ou même du sujet, enfin, du contenu. Et que de plus en plus, je me sens... je trouve que c'est une nécessité que de parler de soi-même. Et en fait, si j'ai un rapport à la beauté qui est lié à l'histoire et à l'architecture, en fait, j'ai aussi un rapport à la beauté vis-à-vis de mon propre corps. Mmh. Et que parler de l'architecture... Peut-être que j'extrapole un peu, mais en tout cas, je suis vraiment dans ces questionnements-là en ce moment. Parler de l'architecture, ça permet de ne pas parler de mon architecture à moi.
Mmh.
Donc, au fur et à mesure,
tu sors de ça.
Je sors de ça. Enfin, c'est pour ça que je parlais d'un voile tout à l'heure. J'ai l'impression de me dévoiler beaucoup plus depuis que je suis entrée dans... que je m'émancipe de la fonction aussi. Et que, en fait, je m'émancipe de la fonction pour laisser place à l'émotion. Et c'est pour ça que ça bascule. Enfin, là, ça bascule vraiment très fort.
C'était magnifique, cette phrase. Oh, j'ai adoré.
Oh, merci.
Du coup, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais donc là, actuellement, aujourd'hui? C'est quoi ton travail?
Ok. Qu'est-ce que mon travail aujourd'hui? Je pourrais dire que je suis artiste presque à plein temps. Je suis trop heureuse de pouvoir dire ça.
Rare.
C'est rare. J'avoue, j'enseigne un peu à côté.
Oui, mais c'est...
Mais c'est rare aussi.
Non, mais c'est super d'être artiste enseignant aussi.
C'est trop bien.
On est beaucoup d'artistes à qui on aimerait un jour avoir cette possibilité d'enseigner dans des écoles d'art en
carrément.
Plus.
Disons que c'est encore un équilibre financier très, très complexe. j'ai fait beaucoup de freelance en sortant de l'école. Et en fait, le freelance, c'est marrant parce que je crois que c'était hier ou avant-hier, j'écoutais un de tes podcasts, celui avec Quentin Fromont, qui parlait du freelance, justement.
Ouais, et, la galère que c'est.
La galère que c'est et l'investissement psychique et créatif que ça représente aussi. Mm-hmm. Donc en fait, le quota créatif qu'on met dans du freelance... on peut pas le mettre dans une pratique personnelle. Et puis chercher des clients, et puis être dans l'instabilité, etc., etc.
Bon. C'est l'une des raisons pour laquelle je me suis pas lancée là-dedans, parce que je me suis dit, ou aussi pareil dans l'intermittence, je me suis dit, c'est déjà tellement précaire d'être artiste, mon job alimentaire est aussi précaire et aussi compliqué, mais pas forcément précaire, je parle d'argent, parce que ça l'est aussi, mais je veux dire même juste une précarité mentale et physique. Je vais pas m'en sortir. Je peux pas avoir que des pratiques précaires comme ça.
Ouais. Il faut choisir. C'est trop bizarre dit comme ça. Il faut faire un choix. Et là, en fait, bah, mon choix, il est très récent. Bah, en fait, il est récent depuis Virage. Parce que ce que j'avais trouvé une espèce d'équilibre un peu vacillant à la sortie de mes études, où j'avais un jour de freelance par semaine que je compensais avec d'autres missions. Je faisais de la 3D, du community management, du graphisme, enfin, ce qu'il y avait, quoi, de la scéno, ça dépendait. Et en fait, j'ai réussi à mettre un pied dans l'enseignement. Donc là, à partir de septembre 2023, j'ai commencé à donner cours. Parfois, je donne des workshops, je fais des ateliers avec des enfants aussi. Donc, j'essaie d'amener le plus possible ma pratique vers ça. Parce que ce n'est pas la même forme de créativité qu'on déploie pour ses projets perso. Donc, je fais ça. J'ai mis un peu de côté aussi ces dernières années, ce qui me permet de vivre, en fait, surtout sur mes économies, là, depuis 6 mois.
Okay.
Ça ne va pas durer longtemps. Là, je suis en pleine recherche. C'est bizarre, hein, mais de recherche de bourse, en fait. Mmh. Et de voir qu'on peut être aidé par le DRAC, par le FRAC, par des institutions publiques. En fait, je découvre l'univers du mécénat, des fondations, des fonds de dotation. Enfin, c'est...
Univers que je ne connais pas non plus, à vrai dire.
Ça fait 3 semaines, là. Donc, je ne suis pas du tout experte en la matière, mais c'est passionnant parce qu'en fait...
Et ça existe.
Ça existe. Mm. Ça existe. Et je pense que, en fait, être artiste à plein temps, c'est jouir aussi de ces fonds financiers qui sont alloués à la culture. Mm. Donc, j'ai envie de vivre de ma pratique, merde.
Ouais. Je pensais que t'arrivais à vivre, du coup, de ta pratique pleinement. Mais en fait, non. Si tu me dis que tu vis sur tes économies, c'est que ce n'est pas une réalité.
C'est pas une réalité. Disons que mon temps est consacré à ma pratique. Mais en fait, je ne peux pas... continuer comme ça ad vitam aeternam. Mmh. Donc il y a un moment où c'est comme si j'étais sur une sellette, en porte-à-faux sur quelque chose. Donc je me donne un certain temps et puis en fait ce certain temps permet de produire, permet peut-être de trouver une galerie, d'exposer, de proposer un contenu qui existe déjà à des expositions. Donc en fait ça fait gagner du temps. Après, ça n'est pas viable économiquement. Mmh. En tout cas, pour finir de répondre à ta question, je dirais que oui, là, c'est, je me consacre à 100% à cette pratique artistique. Après, je n'ai pas un projet en cours à chaque fois. Il y a plusieurs choses qui tombent. Là, par exemple, ces derniers mois, il y a eu tout un projet avec un collectif de musique électronique et de techno qui s'appelle Matière. Et en fait, une DJ qui s'appelle Laze, avec laquelle on a dessiné sa dernière pochette d'album, en fait, on a travaillé sur toute une collection de bijoux, plastrons, enfin, éléments un peu de techwear. Donc ça, je dirais que c'est un peu mon côté designer qui ressort.
Qu'on peut clairement découvrir sur Instagram.
Ouais.
J'ai vu les photos, étaient très, très cool.
Oui, ça va être trop bien. Et donc ça, c'est des projets que je peux faire sans être dans le souci de « Ah, il faut que ce soit rentable. Ah, il faut absolument qu'il y ait un retour sur investissement, etc. etc. » Non, en fait, là, je me sens dans une espèce de, comment dire, de mood dans lequel j'ai envie de rencontrer des gens et d'interagir avec des personnes que je trouve talentueuses et qui sont exactement dans la même situation que moi, de vouloir faire des projets, mais sans forcément avoir les fonds, et de quand même trouver des gens qui sont motivés pour pouvoir faire ça. Mm-hmm. Donc c'est un truc qui m'a pas mal pris ces derniers mois. Après, je me suis mise à la peinture. Je continue à faire de la sculpture aussi en impression 3D. Et en fait, je peins beaucoup avec ma sœur, Blanche, qui a 2 ans et demi de moins que moi, et qui sort aussi de la Design Academy d'Eindhoven. Mmh. Donc elle a diplômé en 2023. Et quand elle est rentrée à Paris, on s'est dit, c'est le moment en fait de... Enfin, ça fait tellement longtemps. Enfin, on a toujours créé ensemble, d'une ouais. certaine manière. On a toujours dessiné ensemble, on a toujours joué ensemble, on a toujours joué à la marâtre et à la princesse, parce que c'était quand même un super jeu, hein, faut bien l'avouer.
J'y ai jamais joué, désolée.
Bon, d'accord. C'est peut-être mon petit côté un peu sadomasochiste qui ressort. Je ne sais pas.
J'avais pas de sœur, moi, pour jouer.
Ah, ouais.
Je sais pas ce que c'est d'avoir une sœur. J'ai des frères, ouais. mais j'ai pas
okay.
de sœur.
Ok. Et donc, c'était quoi ton archétype de jeu
Mais mes frères ont 10 ans de plus que moi.
Ok.
Donc quand on jouait ensemble, c'était plus moi qui squatte leur groupe de copains et qui vais essayer de m'infiltrer dans leurs après-midi plage ou dans leurs après-midi jeux vidéo. C'est la petite sœur qui veut coller ses frères parce qu'elle les adore et qu'elle est fan d'eux.
Oh, mais c'est trop bien.
Ça, c'était moi.
Bah ouais, mais du coup, t'avais genre une capacité de projection qui devait être énorme.
Oui.
Ça devait être incroyable.
Je voulais être, être eux, avec eux tout le temps. J'étais trop fan d'eux, mais du coup, j'ai pas pu jouer à la princesse à la marâtre avec
Oui.
J'ai fait d'autres choses, mais
bon, c'est un peu cliché hein, la princesse et la marâtre, mais c'est marrant parce que on parle beaucoup de ces figures là avec Blanche maintenant. On parle de la sorcière et de la sirène en ce moment énormément, et c'est un peu des figures qui nous habitent. Là, on est en train de préparer une résidence. On part dans 7 jours.
Dans un lieu fantastique.
Ouais. Dans le domaine de la Briantais à Saint-Malo. C'est la résidence de l'Achille. Et c'est une résidence qui est subventionnée, financée par la ville de Saint-Malo. On s'est posé la question de si on participait en duo ou pas, parce qu'en fait, c'est des fonds qui sont assez... assez fixe, c'est difficile de les faire évoluer. Donc, deux personnes pour une résidence,
c'est ça. Déjà, c'est pour difficile. Une seule personne, c'est déjà pas énorme. Quand t'as un loyer à payer, j'avais déjà vu cette résidence et peut-être un jour je la tenterai parce que c'est vraiment un lieu super. J'ai grandi là-bas.
Ouais.
On en a déjà discuté ensemble, mais c'est vraiment
un vernissage. Hein, parce voilà. Que quand même, on va à des vernissages parfois.
Bien sûr. mais pour le coup, non, le château de la Briantais, le parc de la Briantais à Saint-Malo, c'est un endroit magique. Et là, pour le coup, j'ai joué à la sorcière et bien sûr que j'ai fait les jeux. Mais fantastique, et j'ai passé des après-midi avec mes meilleurs amis quand j'étais au collège et en primaire là-bas. C'est un lieu vraiment génial et qui est vu sur mer. Et ça va être exactement parfait pour parler de sorcières et de sirènes.
Je pense que c'est notre terrain de jeu.
Enfin,
là, on y va 2 mois. Donc, on a prévu, ça y est, on a acheté toutes nos toiles et tout. Donc, tout est prêt.
Incroyable.
Et en fait,
vous avez un Cultura pas très loin, si vous avez besoin.
Ouais, c'est parfait, c'est parfait.
J'aime bien vous donner des petits tips.
C'est pas la première fois que tu nous as parlé d'un hippodrome aussi, donc je sais pas si on va monter tous les jours, mais c'est toujours bon de savoir ça.
Il y a plein de trucs, plein de trucs.
Mais en tout cas, ma famille, j'ai une partie de ma famille, les historiens justement, qui ont une maison pas très loin du Mont Saint-Michel. Parce que mon grand-père était maître conférencier et historien spécialiste du Mont-Saint-Michel. Nous emmenait tout le temps au Mont-Saint-Michel quand on était petite. Disons que c'est une région qu'on connaît assez bien. Le Mont-Saint-Michel, évidemment, l'amour pour l'architecture, il vient de là aussi, parce que c'est une espèce d'enchevêtrement architectural. Saint-Malo, on y allait régulièrement aussi. Enchevêtrement architectural assez intéressant aussi, entre les fortifications, les pierres de granit partout sur le
pont. Il faut vraiment que je fasse une liste de choses à faire à Saint-Malo.
Il y a des rochers magiques.
Les rochers sculptés, bien sûr. Là, faut partir un petit peu en dehors de Saint-Malo. Faut aller plutôt vers Cancale, Saint-Coulon. Ouais. Faut vraiment que je fasse une liste.
Bah oui, on l'attend, on l'attend vraiment. Mais voilà.
C'est trop bien.
Donc, ça va être un peu notre thème. On va peindre à quatre mains là-bas. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? On va peindre à quatre mains. Et puis surtout, l'idée, c'est d'allier la peinture à l'huile à de la sculpture, et notamment de la sculpture imprimée en 3D.
Et pourquoi la peinture ? Du coup, c'est sorti, là, c'est nouveau, mais pourquoi ?
Pourquoi la peinture ? Parce que très émotionnel, déjà. Non, c'est la première chose qui me vient en tête. Hein. Mais en fait, j'ai toujours beaucoup, beaucoup dessiné. Mais de manière très pointilleuse, au feu,
très dans le design,
j'ai toujours adoré dessiner des objets, etc. Et en fait, encore une fois, virage. En fait, Kai Yoda, donc l'artiste avec lequel j'ai collaboré, qui m'a mentoré, est peintre à la base. Il est peintre et sculpteur, et donc il a une pratique qui est très émotionnel, mais aussi lié à ce qu'on appelle la sérendipité. Donc il teste, et en fait c'est via ces tests, via les couches successives de peinture qu'il amène, qu'il découvre des émotions, des choses qui se passent dans la peinture. Mmh. Et à la fin de Virage, il me dit, mais en fait, tu devrais grave tester la peinture, parce que tu dessines tout le temps, même pour imprimer en 3D tes sculptures, tu les dessines avant même de les modéliser. Donc en fait, le dessin est vraiment au cœur de ma pratique. Mmh. Et il me disait, mais t'as fait autre chose que du feutre et du crayon ? Et je dis, non, pas vraiment. Donc il m'a dit, next step, c'est la peinture.
Ouais. Et je le vois sous du coup, là, j'ai tes peintures sous mes yeux. Et sous tes yeux aussi.
Sous mes yeux aussi, ouais, on regarde ensemble.
Mais c'est assez marrant parce que tu achètes tes toiles, je suppose.
Ouais.
Et
suis encore là. Hein.
Ouais, c'est ça. Non, mais c'est assez marrant parce que du coup, moi, en tant que bonne vieille meuf des beaux-arts, j'ai envie de te dire, achète un énorme rouleau de papier qui fait 1,50 m je sais pas, tu prends 10 mètres de rouleau, tu agrafes au mur de ton atelier, et là, vas-y, expérimente.
Ouais, okay.
Et genre, et peins dessus, et ensuite... Parce que c'est très beau aussi les peintures sur papier, tu vois. Et ensuite, tu pourras te mettre à la toile, mais j'ai peur que, tu vois, ça te bloque le fait que ça soit des toiles qui soient assez petites dans des petits formats.
C'est vrai.
Alors que pour expérimenter, le papier, les rouleaux, c'est vraiment un moyen qui est plutôt cool de faire ça.
Mais disons qu'il y a tellement... En fait, c'est un monde qui s'ouvre. Parce qu'il y a la question du format, il y a la question de la couleur, il y a la question des couches, enfin, il y a la question de l'étude aussi. Qu'est-ce qu'il y a une étude ? Qu'est-ce qu'il y a une pièce finie ? Enfin, en fait, en plus, avec mon background un peu classique d'historien de l'art, j'adore faire des études. Donc, si tu veux, tu pourras jeter un coup d'œil, mais dans mon gros cahier rouge, là, en fait, c'est toutes mes études aussi. Okay. Je fais des croquis préalables, etc. Mmh. Mais clairement, la question du format et de la taille,
Surtout
Blanche,
si vous peignez à deux.
C'est ça. Derrière toi, là, t'as un format qui est déjà un peu plus grand.
Ouais.
Et c'est en fait ce genre de format qu'on va explorer pour la résidence. Où on se dit, minimum, enfin, c'est pas énorme, mais minimum 1,50 m par 1 m, quoi, 1,20 m.
Mais n'hésitez pas à aller
au Cultura.
Prenez des gros rouleaux de papier et expérimentez à deux. Et je pense que. C'est pareil, à un moment donné, mais ça viendra plus tard si ta pratique elle se développe là-dedans, mais de faire tes propres toiles.
C'est vrai.
De trouver des tasseaux ou juste des châssis que tu peux acheter. Parfois, c'est un petit peu cher, mais tu tentes tes propres toiles et c'est encore une autre manière de travailler, mais où tu te sentiras plus libérée dans
aussi,
la création, en vrai.
Et qu'en plus, tu vois ça, mais c'est une pratique qui a 2-3 mois.
Mais c'est donc, ça, et c'est fou déjà la production que tu as faite, que vous avez réalisée, parce que c'est y en a beaucoup.
ça a été des nuits entières, quoi. On est une famille d'obsessionnels, quoi. Donc,
et c'est marrant parce que tu disais tout à l'heure que du coup maintenant tu avais une sorte de retour à un peu donc à l'émotion et à toi et aussi à une forme d'intimité.
Ouais.
Est-ce que du coup tu peux parler de
ouais,
ça ?
Ouais. En fait, je ne sais pas.
C'est
la question ultra directe. En fait, cette intimité. En fait, en école de design, je ne représentais pas les gens. Je dessinais des objets. Et je ne dessinais pas des corps, je dessinais des architectures. Et en fait, tout simplement, c'est aussi très lié à moi, mon rapport au corps et mon rapport à ma santé mentale et au fait que des questions de troubles du comportement alimentaire qui m'habitent depuis longtemps font que du coup, le corps n'existe pas. Et dans une pratique d'objet, c'est plus facile de
s'effacer,
d'omettre le corps et de s'effacer là où en fait dans la peinture on implique le corps aussi. On peint avec son corps, on peint ses émotions. Enfin en tout cas l'approche que j'ai en ce moment et en fait ça a vraiment. Enfin tu l'as sous les yeux mais c'est vraiment un flow. Il y a des images, des espèces d'insectes qui vomissent en fait quelque chose. Enfin c'est très lié aussi au rapport à la boulimie, le rapport à ma vision de mon propre corps, de ma dysmorphophobie. Enfin c'est des thèmes en fait que je n'ai jamais abordé pendant mes études. Et pourtant, j'aurais pu à la Design Academy, parce que c'est une école qui est suffisamment libre et ouverte pour introduire aussi ce genre de thématique. Mais juste, c'était pas le moment, quoi.
Ouais.
Donc en fait, le fait de m'apposer, de me légitimiser en tant qu'artiste, ça me permet de raconter ça aussi, enfin de dire ça, de clamer ça.
Ouais.
Et
De reprendre le pouvoir aussi,
ouais,
sur ça.
Ouais, vraiment. Donc ça va encore évoluer, j'en suis sûre, mais en tout cas, en ce moment, j'ai un peu envie de faire tabula rasa de ce que j'ai appris. Donc c'est pour ça que je vais vers de l'organique, que je vais vers du mélange de couleurs, mais en même temps, il y a des insectes. Enfin, c'est tout sauf de l'architecture classique, on va dire. En même temps, c'est classique, parce que comme tu dis très bien, j'achète mes toiles sur châssis encore. Ce sont des objets, donc il y a une espèce de dualité, en fait, entre les deux.
Ouais.
J'aime bien la garder. Parce que c'est moi aussi. Enfin, du coup, il y a l'enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure. Et comment on fait cohabiter les deux, on va dire.
Mais c'est marrant parce que en fait, j'imagine ta pratique évoluer dans le sens où tu vas mêler en fait, le design et la peinture et que tu vas créer du coup, tes propres supports où tu vas peindre en fait, dessus.
Ouais.
Je pense que c'est un peu... Enfin, en tout cas, moi, j'imagine que tu pourras sûrement partir vers là.
Absolument. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, l'impression 3D, elle a un... Enfin, pour moi, elle a un rôle hyper important. Là où ce qu'on ne voit pas encore maintenant, l'idée, c'est aussi d'encadrer et d'amener des éléments sculpturaux dans l'étoile et de faire sortir des choses. Et c'est ce qu'on va essayer d'expérimenter à Saint-Malo. Où en fait, là, on a une petite sculpture en bas sur un tabouret. C'est une petite sculpture. C'est une espèce de poisson corail organique imprimé en 3D tout noir. Enfin, c'est assez indéfinissable comme volume. Et en fait, ça, j'ai envie de le faire sortir de mes peintures, littéralement.
Ouais.
Et de jouer en fait, avec ça. Blanche, elle est en train de commencer à peindre aussi sur les impressions 3D. Donc, l'idée, c'est que la sculpture, elle soit aussi à quatre mains. Donc, ouais.
C'est chouette, c'est un beau projet.
Ouais. Ouais. Je pense qu'on va beaucoup s'amuser. Et puis,
Je suis si jalouse.
Oh mais tu vas venir.
Mais pour l'instant, je sais pas si je vais pouvoir.
On dira si c'est un bon tip, si ça nous a plu. Comme
ouais.
Ça,
oui, parce que vous allez être les premières personnes que je connais.
Oui, c'est ça. Ouais, je crois que c'est la deuxième ou la troisième fois, peut-être la deuxième année consécutive que la résidence existe. Donc elle est assez nouvelle, mine de rien. Autre chose qu'on va développer, je pense, enfin, qu'on développe déjà avec Blanche, c'est notre pratique de l'écriture.
Mmh.
On en parlait quand tu es arrivée à l'atelier.
Ouais.
Où on s'est dit, ah, mais toi aussi, tu écrivais quand tu avais 7 ans et tu t'es jamais arrêtée.
Exactement, les journaux intimes.
Bah ouais, les journaux intimes. Et c'est une pratique qui est géniale parce que, en fait, toi, je sais pas quel. Où est-ce que tu as grandi, si tu as eu la chance de sortir, de pouvoir gambader dans un jardin, dans des parcs?
J'ai eu totale liberté.
Tu as eu totale liberté. Oh, trop bien.
Depuis presque génial. Toujours.
Ouais,
ouais, okay. Vraiment. J'ai une chance folle, mais vu que mes parents ont eu deux grands garçons avant moi, moi, j'étais limite la facilité et j'avais totale liberté sur tout ce que je pouvais faire.
Ouais.
Donc... Je ne sais pas où tu voulais aller avec
Non, mais j'allais dire l'espace. L'espace, encore une fois, quoi. Parce que, en fait, avec Blanche, ce qu'on faisait beaucoup, c'est qu'on jouait, on faisait ce qu'on appelle des jeux de rôle, où on s'attribuait des rôles, etc. Et qu'en fait, c'était notre manière à nous, en tant que petite fille dans un appartement, chambre partagée, de nous échapper et de nous évader. Et qu'en fait, pour moi, l'écriture, c'est ça aussi. Il y a vraiment... Enfin, évidemment, il y a un côté archivage où j'ai besoin de raconter mon quotidien, ce qui s'est passé, mes projections, etc. Mais c'est aussi un médium sur lequel je projette énormément mes fantasmes.
Mmh.
Et en fait, je me rends compte que je l'ai toujours fait de manière plus ou moins consciente. Où à l'école primaire, j'ai l'impression que tous les garçons étaient amoureux de moi dans la classe, ce qui, je pense, était complètement faux. Mais j'étais très heureuse de pouvoir l'écrire. Et de dire, ouais, je suis sûre qu'ils sont trop amoureux de moi.
Ah, trop marrant.
Donc, c'était trop bien.
J'ai pas du tout la même pratique d'écriture. Enfin, moi, c'est plus genre, j'écris pour ne pas oublier.
Ouais, d'accord.
Donc, c'est vraiment une manière pour moi d'archiver et de me souvenir des choses que j'ai faites. Et... Et puis aussi, forcément, je mets mes envies, mais c'est pas mes fantasmes. Tu vois, j'écris mes ambitions, j'écris ce que je veux faire. C'est presque une sorte de motivation où je me dis, tiens, je l'ai mis sur papier, c'est sorti de ma tête.
Ouais.
Maintenant, je vais pouvoir dormir.
Ouais, d'accord.
Genre, il y a un peu ce truc-là où c'est presque vital pour moi d'écrire.
Ouais.
Mais je me suis forcée à avoir cette pratique, tu vois. C'est...
Ouais.
Mais ouais, c'est un peu différent.
En fait, t'as une approche très journalistique de ton écriture. Enfin, journalistique, archiviste, historienne.
Ouais, un petit peu, ouais.
Ouais.
C'est ça.
Là, c'est... En ce moment, dans ma manière d'écrire, il y a plus que du fantasme, mais j'aime beaucoup romancer ma vie. Donc, quand je raconte quelque chose, j'adore glisser des figures de style, métaphores, et d'être dans...
Ça, je le fais dans ma tête.
Ouais,
je ne le mets pas sur papier.
Mais c'est génial. De toute façon, on est tous nos propres protagonistes.
Ouais.
Donc, en fait, il y a un moment où il faut l'assumer et on l'assume... Enfin, on a la chance d'être artiste aussi, donc on l'assume dans notre travail.
Ouais.
Mais l'écriture, c'est un médium qui est vraiment génial pour ça, parce que c'est fait pour, et que la tradition du roman français, en plus, on y a quand même tout un bagage qui est énorme, et Annie Ernaux et compagnie, moi, c'est même Marguerite Duras, je suis parler de sa vie et romancer sa vie et son soi, pour moi, ça fait partie du travail artistique. Donc, ça m'accompagne énormément. Et en fait, là où je me suis remise à écrire quotidiennement, vraiment, enfin, de manière très, très stricte, ça date de l'été dernier. Donc, ça date de virage aussi.
Okay.
Donc, il y a vraiment eu... encore une fois, c'est un virage.
Un vrai virage. Un vrai tournant dans ta vie.
Il y a plus de 6 mois, là. Ouais, ça a été un gros tournant. Et Blanche écrit aussi énormément. Et ce qu'on fait de temps en temps, c'est qu'on pioche un jour. Elle écrit depuis plus longtemps que moi. Elle a une approche assez similaire de la mienne, donc on s'entend très bien et en fait on peut faire coexister nos écrits. Et ce qui se passe, ce qu'on a fait il n'y a pas si longtemps que ça, c'est qu'on était chez moi, on se faisait une pyjama party et on avait chacune nos carnets et on se disait ok, maintenant on ouvre la page du 28 mars et en fait on lisait chacune notre 28 mars et en fait ce qu'on veut faire, si on continue à écrire, c'est d'entremêler tout ça.
C'est si intrusif et à la fois si intéressant et je me verrais pas le faire avec tout le monde, mais vous êtes sœurs, enfin il y a quelque chose de c'est génial
de lire ces textes, ça permet une mise à nu aussi. Et là où j'ai commencé à lire mes textes, c'est aussi là où j'ai commencé à pouvoir parler de mes TCA, de mon rapport à moi, de mon rapport à l'image, enfin il y a un côté hyper comment dire, est-ce que curatif ça se dit, le fait de se soigner, quoi, c'est
On va dire que oui.
Ouais, on va dire que oui. On va dire que
voilà, il y a pas de règle ici.
Ouais, mais voilà, enfin c'est important pour moi, quoi.
Ok.
Ouais.
Et ben j'ai envie de dire que cet entretien va tourner, enfin on arrive à la fin, parce que it's time. Je vais quand même te poser la dernière question que je pose un petit peu à tout le monde. Peut-être que c'est un peu redondant, je ne sais pas si c'est intéressant, mais j'aime bien quand même la poser. Est-ce que tu as des conseils à donner à des étudiants, à des jeunes artistes, à des personnes qui travaillent dans le monde de l'art? Et toi, des petits tips qui t'ont aidé à faire de qui tu es aujourd'hui? C'est pas français ce que je dis, mais en tout cas, qui t'ont aidé et que tu aurais envie de partager aujourd'hui.
Là, je dirais que le conseil qu'on m'a donné, qui m'a le plus aidée récemment, c'est de travailler tous les jours. C'est d'être constant dans sa pratique. Et vraiment, c'est marrant. En plus, je suis tombée sur une story de Issy Wood, qui est une peintre anglaise, il y a peut-être quelques mois, où elle répondait, elle donnait des conseils d'artiste et elle disait exactement la même chose. Go to your studio every day, even if it's for crying. Et j'ai trouvé ça tellement, tellement vrai.
Je crois que j'ai vu ce post passer. Ouais,
c'était, et j'ai trouvé que c'était hyper... en fait, c'est logique. C'est logique parce que quand on peint, quand on dessine, il y a une évolution, enfin, il y a une lenteur dans la pratique. C'est comme pour la musique et c'est comme pour le sport. Après, c'est hyper... je sais pas, dogmatique, mon conseil. Je peux pas vous donner un conseil qui est culpabilisant ou quoi, parce que tout le monde ne peut pas aller à son atelier ou
typiquement,
travailler tous les jours.
Je ne peux pas faire ça.
Bah ouais, je sais, c'est pour ça que.
Mais c'est même pas, je veux dire, même si j'en avais l'occasion, je pense pas que je pourrais ou aimerais le faire parce que ce n'est pas de la manière dont je travaille. Mais c'est parce que j'ai arrêté aussi la peinture. À un moment donné, je faisais de la peinture, mais peut-être que si j'étais peintre, peut-être que ça évoluerait aussi. Ouais. Si je faisais du dessin, c'est vrai que toutes les personnes qui font du dessin et de la peinture m'ont souvent dit tous les jours. Mmh. C'est très important. Ou la pratique de l'écriture, tous les jours. Parce que c'est dans le temps qu'on voit les choses qui sont importantes à dégager.
Et puis, quand on s'arrête, on perd. C'est très flippant, d'ailleurs. Quand on s'arrête une, deux, trois semaines, c'est difficile de se remettre en route. Et je me souviens, je faisais de la musique jusqu'à mes 20 ans, en fait. Je faisais de la clarinette. et j'allais beaucoup au conservatoire. J'avais beaucoup de cours de solfège, de pratiques communes, solo, duo, etc. Et en fait, il fallait bosser tous les jours. Il fallait bosser tous les jours, minimum une demi-heure, une heure. Parce qu'en fait, sinon, on perdait. Et donc, il y avait un truc, être élevé au métronome, quoi.
Ouais.
Donc, je dirais que le côté rigoureux, je le trouve génial, je le trouve un peu dangereux à la fois, parce que, comme je disais, culpabilisant et culpabilisant pour soi-même aussi. Mais là où je commence un peu à accepter le truc, et je trouve que le poste de Issywood m'a trop aidée, c'était justement le fait de voir que tu peux aller au studio, à ton atelier, mais tu peux juste chiller et regarder Instagram pendant 2 heures assis sur ta chaise à rien faire. Au moins, t'es allé à ton studio. Et ça, je trouve que c'est trop bien parce que en fait, ça fait sa chambre à soi, quoi. C'est son troisième espace et c'est un espace de liberté. Donc, et personne viendra nous jeter la pierre pour nous dire quoi faire dans cet endroit. Donc c'est trop bien.
Bon merci Adèle pour ce super conseil et merci pour cet échange, cette conversation qui était vraiment très chouette et très fluide et qui allait un peu partout dans tous les sens. mais ça fait plaisir. Je suis très contente de ce retour et de ce nouvel épisode.
Oui, merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Concrètement Flou. Je remercie encore Adèle Vivet d'avoir accepté mon invitation. Merci à Radio Vacarme de diffuser ce podcast quand bon me semble. Merci à Kojo Kara d'avoir produit les ambiances sonores qu'on entend dans l'épisode. Et merci à Camille Châtelain pour mon générique. À bientôt pour un prochain épisode.